vie se joue. Comment s'habille la fille pour son premier rendez-vous? Comment s'habille la fille pour son premier rendez-vous? Quelqu'un nous entend-il du côté des étoiles? D'enfer au paradis, qui est bien, qui est mal? Le tunnel est si grand, je n'en vois pas le bout. Comment s'habillent les filles pour le premier rendez-vous? Comment s'habillent les filles pour le premier rendez-vous?
Vous écoutez CILS FM,
la voix de votre communauté.
L'Association historique francophone de Victoria a reçu une subvention du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour un projet intitulé Souvenance, reconnaissance. Ce projet vise la clientèle des 55 ans et plus, qu'ils soient ou non membres de l'association historique. Il se veut une activité de souvenance, histoire commune et histoire personnelle, laquelle activité nous permettra de reconnaître la contribution des leaders ayant œuvré à l'installation d'une communauté francophone et à la promotion de la francophonie en Colombie-Britannique. Gisèle Sanson, archiviste et chargée de projet à l'Association historique francophone de Victoria, et moi-même, Marie-Hélène Bourret, serons là pour animer les rencontres mensuelles. Jeunes mémoires, histoires oubliées, petits films, chansonnettes et activités de reconnaissance des piliers de notre communauté seront au rendez-vous. La première rencontre aura lieu le 9 mai au locaux de la Société francophone de Victoria, au 12-18 rue Langley, dès 17h30. Un léger goûter sera servi. S'il vous plaît, réservez votre place avant le 6 mai en téléphonant au 250-507-8305 ou en écrivant à mhbourret@commercialahfv.org.
Désirez-vous être écrivain pour l'émission Histoire classique diffusée 3 fois par semaine? Écrivez-moi à louise@louisealepin.com sur les ondes de CILS FM.
Bonjour à tous les auditeurs francophiles et francophones de la grande région de Victoria. Merci de votre écoute pour cette édition du vendredi 5 mai, où que vous soyez, au travail, à la maison ou en voiture. C'est Alexis Gagnon au micro. Je vous accompagne au seuil de la fin de semaine, au cours de la prochaine heure, dans votre rendez-vous info quotidien. Le débrief débute dans quelques secondes avec la revue de presse internationale. Bonne émission à tous. Et je signale d'entrée de jeu à nos auditeurs que nous allons nous entretenir à la mi-temps de l'émission avec le spécialiste de la politique britanno-colombienne Teal Phelps-Bondaroff. Teal travaille avec le député Casavant dans la circonscription de Oak Bay-Gordon Head. Il est consultant, il est diplômé de Cambridge, il a un doctorat en politique internationale, donc c'est un excellent analyste de la chose politique en Colombie-Britannique. Nous allons parler avec lui donc à la moitié de l'émission. Restez à l'écoute. C'est après les revues de presse et nous allons aborder un ensemble de questions touchant à la campagne électorale qui bat son plein actuellement. Restez à l'écoute. Vous écoutez l'émission Le Débrief, mon nom est Alexis Gagnon. Voici votre revue de presse internationale pour le vendredi 5 mai. Syrie, le chef de l'ONU salue l'accord sur les zones sécurisées. C'est dans le portail de Ouest-France. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit jeudi encouragé par l'accord entre la Russie, l'Iran et la Turquie sur la mise sur pied en Syrie de zones sécurisées destinées à instaurer une trêve dans certaines régions, selon son porte-parole. Il sera crucial de voir cet accord améliorer réellement la vie des Syriens, a déclaré le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. La Russie et l'Iran, alliés du président syrien Bachar al-Assad et la Turquie, soutien des rebelles, ont adopté jeudi à Astana, au Kazakhstan, le dernier plan russe pour la Syrie visant à créer des zones sécurisées afin d'instaurer une trêve durable dans plusieurs régions. Les territoires concernés seront doublés de zones d'exclusion aérienne à condition qu'il n'y ait aucune activité militaire dans ces zones, selon le président Vladimir Poutine. Les chefs des délégations des trois pays parrains des pourparlers de paix qui se tenaient pendant deux jours au Kazakhstan ont signé un mémorandum sur la création de zones de désescalade en Syrie, a indiqué le ministre kazakh des Affaires étrangères. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a salué l'engagement à mettre fin à l'utilisation de toutes les armes, particulièrement les moyens aériens, et la promesse de livrer de l'aide humanitaire aux zones concernées, selon son porte-parole. Les Nations Unies soutiennent la désescalade, a poursuivi le porte-parole, sans plus de précision sur ce terme flou pour le moment. C'est un jour important, a aussi salué l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, présent à Astana, disant espérer des progrès concrets vers l'instauration de ces zones d'ici deux semaines avant la reprise des pourparlers de paix à Genève. Algérie, on parle des élections algériennes dans le journal La Croix. Le FLN et son allié, le RND, restent aux commandes de l'Algérie. Rien de nouveau sous le soleil d'Alger, écrit le journal La Croix. Statu quo, titre laconiquement le quotidien El Watan sur son site internet. Comme attendu, le Front de Libération Nationale, le FLN, l'ex-parti unique et parti du président Abdelaziz Bouteflika, reste le premier parti d'Algérie à l'issue du scrutin législatif du jeudi 4 mai. Et la coalition gouvernementale qu'il forme avec le RND continue à garder la main sur la politique du pays. Comme attendu aussi, poursuit cet article du journal La Croix, les Algériens n'ont que très marginalement contribué aux retouches de leur paysage politique. Près de 15 millions des 23 millions d'électeurs ont boudé les urnes, soit un taux de participation de seulement 38,25%, inférieur aux 43% de 2012, selon les résultats préliminaires communiqués par le ministre de l'Intérieur. Vendredi à la mi-journée. Ce taux est certainement très surestimé. Il était de 15% à 14h et les autorités ont prolongé l'ouverture des bureaux de vote de 19 à 20h. Elle voulait un minimum de 35% pour se ressourcer, a commenté Yaha Zoubir, professeur de relations internationales et directeur de recherche en géopolitique à la Kedge Business School. Les équilibres au sein de la coalition sont toutefois modifiés pour cet article de La Croix. Le poids relatif du FLN s'érode puisqu'il perd 57 sièges pour en conserver 164 dans la nouvelle Assemblée populaire nationale. Aux États-Unis maintenant, Donald Trump engrange des succès au Congrès. C'est dans le journal Le Monde. Les deux succès engrangés au Congrès jeudi 4 mai par Donald Trump seront peut-être temporaires, mais ils lui permettent de lever des doutes sur sa capacité à gouverner. Le Parti républicain a, sur le fil, permis à la Chambre des représentants d'adopter un projet de loi sur la santé. En mars, une première mouture de la réforme avait échoué à convaincre un nombre suffisant d'élus du Parti républicain. Un compromis entre démocrates et républicains, accepté de mauvaise grâce par le président Donald Trump, un compromis assurant le financement du fonctionnement de l'État fédéral jusqu'en septembre, a par ailleurs été voté, écartant ainsi la menace d'un shutdown, comme on l'appelle, une fermeture du gouvernement. Après le camouflet essuyé le 24 mars dernier lors de sa première tentative d'abrogation de l'Obamacare, l'extension de la couverture de santé instaurée par son prédécesseur, M. Trump avait voulu tourner la page au plus vite en se concentrant sur la réforme de la fiscalité, mais s'était oublié que les économies attendues dans le domaine de la protection sociale étaient nécessaires pour compenser un allègement des impôts qui bénéficiera principalement aux plus aisés. Cet impératif a contraint le président à revenir à la charge auprès des élus récalcitrants, ceux qui jugeaient la réforme trop timide comme ceux qui dénonçaient ses conséquences pour la population la moins favorisée du pays. Cette portion de la population, donc, qui avait pu obtenir une couverture santé grâce à la réforme Obamacare, alors que la majorité des Américains en disposent par le biais de leur employeur. Dans le média Ouest France, le pape François recevra Donald Trump le 24 mai. Une rencontre entre le pape François et Donald Trump aura lieu le 24 mai au Vatican. Les relations entre les deux hommes ne sont pas au beau fixe. Le pape François recevra le président américain Donald Trump le 24 mai, a annoncé jeudi le Vatican, alors que le président américain est attendu fin mai, justement, en Italie, pour le sommet du G7 à Taormina, en Sicile. Interrogé sur le président Trump en février 2016, quand ce dernier était candidat à la primaire républicaine, le pape François avait assuré « Une personne qui veut construire des murs et non des ponts n'est pas chrétienne ». Cette déclaration avait alors provoqué une réaction courroucée du magnat de l'immobilier, Donald Trump, qui avait alors jugé honteux qu'un responsable religieux mette en doute la foi d'une personne. L'audience entre Trump et le pape sera suivie pour Donald Trump d'une visite le 25 mai à Bruxelles. Donald Trump reviendra les 26 et 27 mai en Italie pour le sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7 en Sicile. Le journal Le Monde souligne aussi dans cet article que le président américain a annoncé jeudi à Washington qu'il se rendrait à la fin du mois en Arabie Saoudite, en Israël et au Vatican pour son premier voyage à l'étranger depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier dernier. En Grande-Bretagne, à présent, dans le fil de l'agence Reuters, Theresa May sort renforcée des élections locales. Le Parti conservateur de Theresa May sort renforcée des élections locales qui avaient lieu jeudi en Grande-Bretagne, remportant une centaine de sièges supplémentaires selon les premiers résultats disponibles vendredi matin. À 5 semaines des élections législatives anticipées du 8 juin, ces scrutins locaux avaient valeur de test pour la première ministre qui s'apprête à mener de difficiles négociations du Brexit. Près de 5000 sièges d'élus municipaux et de comtés étaient en jeu en Écosse et dans certaines régions d'Angleterre et du Pays de Galles. D'après les premiers résultats encore très partiels connus vendredi matin, les Tories, donc les partis conservateurs de Theresa May, a fait basculer 5 conseils et décrocher au moins une mairie supplémentaire dans le pays. À l'inverse, le parti de l'indépendance du Royaume-Uni, UKIP, s'est effondré. Lors des précédents scrutins, il y a 4 ans, la formation europhobe avait largement progressé. Les premières tendances montrent aussi un recul du Parti travailliste en Écosse, un de ses anciens bastions, où il est désormais largement devancé par le Parti national écossais de Nicola Sturgeon, la première ministre du gouvernement régional d'Édimbourg. Ces scrutins locaux faisaient figure de répétition avant les législatives anticipées du 8 juin que Theresa May a convoquées pour asseoir son autorité avant d'entamer les difficiles négociations du Brexit avec l'Union européenne. Dans les intentions de vote, le Parti de conservateur est crédité de 20 points d'avance sur les travaillistes de Jeremy Corbyn. Retour dans les colonnes du journal Ouest France, l'Allemagne contre la tenue du référendum turc sur la peine de mort sur son territoire. Le gouvernement allemand a indiqué ce vendredi qu'il refusait de laisser les ressortissants turcs sur son territoire participer à un référendum souhaité par le président turc sur le rétablissement de la peine de mort en Turquie. Les ressortissants turcs vivant en Allemagne ne seront pas autorisés à s'exprimer sur le rétablissement de la peine de mort en Turquie si Ankara organisait un tel référendum, a prévenu vendredi le porte-parole du gouvernement allemand. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé à plusieurs reprises de réintroduire par référendum la peine capitale dans le code pénal turc dans la foulée du coup d'État manqué de juillet 2016. Il n'est pas politiquement imaginable que nous puissions approuver un tel scrutin qui va à l'encontre de notre loi fondamentale et des valeurs européennes, a déclaré un ministre allemand. Si un autre État veut organiser des élections ou un scrutin dans ses consulats ici en Allemagne, il faut obtenir l'autorisation de l'Allemagne, a-t-il ajouté. Soucieuse de se conformer aux exigences posées par l'Union européenne afin de la rejoindre, la Turquie avait aboli la peine de mort en 2004. Recep Tayyip Erdogan, le chef d'État de la Turquie, a toutefois prévenu qu'il soutiendrait son rétablissement si le Parlement le proposait ou si la mesure était approuvée par référendum. L'UNESCO adopte une résolution sur le statut de Jérusalem. C'est dans le journal Le Monde. Le conseil exécutif de l'UNESCO a adopté vendredi 5 mai en séance plénière une résolution sur le statut de Jérusalem proposée par plusieurs pays arabes. Ce texte stipule notamment que toutes les mesures prises par Israël, une puissance occupante, qui ont altéré ou visent à altérer le statut de la ville sainte de Jérusalem seront nulles ou non avenues et doivent être annulées. Cette résolution dénonce donc la loi d'annexion de Jérusalem Jérusalem-Est conquise en 1967 par Israël. Adoptée par consensus, cette loi avait été votée mardi en commission avec 22 voix pour et 10 contre. 23 États membres s'étaient abstenus. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait fustigé un texte absurde niant, selon lui, le lien historique entre Jérusalem et les Juifs. En mesure de rétorsion, Israël a annoncé mercredi qu'il réduirait de nouveau sa contribution à l'Organisation des Nations Unies à hauteur $1 million. Suite à de précédentes résolutions, le gouvernement de Benjamin Netanyahou avait déjà ordonné plusieurs coupes dans sa contribution au budget des Nations Unies, tombée de $11 million à $3,7 million selon un responsable israélien. Une précédente épreuve de force entre Israël et l'UNESCO avait eu lieu en octobre, lorsque l'État hébreu, outré par le vote d'une résolution sur le patrimoine culturel palestinien à Jérusalem, avait rappelé son ambassadeur auprès de cette organisation. Israël considère l'ensemble de Jérusalem comme sa capitale unifiée, ce que la communauté internationale n'a jamais reconnu, alors que les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l'État auquel ils aspirent. Aux États-Unis, le procès d'El Chapo débutera en avril 2018. C'est dans le fil de l'agence Associated Press. Le procès du narcotrafiquant mexicain présumé Joaquin El Chapo Guzman débutera en avril 2018. Guzman a comparu vendredi matin devant un juge fédéral américain à New York. Il a répondu aux questions par le biais d'un interprète. Guzman a passé la moitié de l'audience à regarder sa femme, qui lui a souri et lui a envoyé la main quand il est rentré dans la salle. Les avocats de Guzman ont affirmé que la vitre qui les séparait de leurs clients pendant sa comparution nuisait à leur communication. Le juge a promis d'étudier la question. Guzman s'est échappé de deux prisons mexicaines, la dernière fois en suivant un tunnel long de plus de 1,5 km qui avait été creusé sous le plancher de sa cellule. Guzman a été extradé vers les États-Unis en janvier dernier. Il est accusé d'avoir supervisé une organisation de trafic de drogue de plusieurs milliards de dollars qui aurait aussi commis des meurtres et des enlèvements. Et rappelons ici au passage que Guzman faisait affaire avec la banque britannique HSBC pour le blanchiment de son argent. HSBC a payé en décembre dernier une amende de 1,9 milliard de dollars aux autorités américaines, une fraction probablement de l'argent qui avait été blanchi à travers ce stratagème. Retour dans le journal La Croix. Au Venezuela, un leader étudiant est tué sur fond de manifestations violentes. De nouvelles violences ont éclaté après l'annonce du président Nicolas Maduro de convoquer une assemblée constituante. La vague de manifestations commencée début avril au Venezuela ne retombe pas. Les manifestants n'ont pas désempli les rues de Caracas jeudi 4 mai et de nombreux incidents ont une nouvelle fois éclaté entre les forces de l'ordre et des étudiants qui manifestaient. Un leader étudiant a été tué, faisant monter le bilan à 36 morts depuis le début des manifestations, début avril. C'est sur cette actualité que se referme la revue de presse internationale pour le 5 mai. Restez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuit dans un instant avec la revue de presse nationale. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief. Voici votre revue de presse nationale pour le 5 mai. Ottawa ouvre une agence de développement international à Montréal. C'est dans le journal La Presse, sous la plume du journaliste Pierre-André Normandin. C'est à Montréal qu'Ottawa a décidé de fonder sa nouvelle agence de développement international, dont la centaine d'employés veillera à investir dans des entreprises œuvrant dans des pays émergents. Le premier ministre Justin Trudeau était à Montréal vendredi pour annoncer la mise en place de l'Institut de financement du développement du Canada, l'IDF. Comme le prévoit le dernier budget fédéral, Ottawa injectera dans cette organisation, l'IDF, 300 millions de dollars sur 5 ans. Il ne s'agit pas de dons, mais plutôt de prêts ou garanties pour aider des entreprises travaillant dans les pays en développement. L'agence devra ainsi être rentable et générer des profits. Ces profits seront ensuite réinjectés dans de nouveaux projets de développement. Le Canada est le dernier pays du G7 à se doter d'une telle agence. La ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, indique que cette nouvelle formule a fait ses preuves dans le passé. L'agence néerlandaise, par exemple, a contribué à implanter une entreprise au Nigeria afin de produire sur place des engrais. Les agriculteurs locaux n'ont ainsi plus besoin d'importer à grands frais ce nouveaux produits pour assurer leur récolte. L'IDF est une filiale désormais d'Exportation et Développement Canada, EDC. Elle ouvrira ses portes en janvier 2018, ce qui devrait créer une centaine d'emplois, a indiqué Justin Trudeau lors d'une conférence de presse. Cette agence devra suivre les priorités du gouvernement, soit combattre les changements climatiques, favoriser les énergies renouvelables, favoriser la qualité des eaux, appuyer le développement des PME, particulièrement celles qui sont dirigées par des jeunes et des femmes. Dans l'hebdomadaire L'Actualité, les leçons de Fort McMurray. C'est un article qui revient sur l'incendie de forêt qui a ravagé la région de Fort McMurray il y a un an. L'incendie de forêt qui a ravagé une partie de la ville de Fort McMurray en Alberta au printemps 2016 est la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire du Canada, rappelle L'Actualité. Près de 88 000 personnes ont été évacuées et 1 900 maisons ont été détruites. Qu'a-t-on appris de ce drame, demande l'hebdomadaire. Des chercheurs de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques, l'IPSC, un centre de recherche situé en Ontario, ont eu accès aux décombres de Fort McMurray avant le retour des résidents et ont pu reconstituer la propagation de l'incendie de la forêt jusqu'à la ville. Ce ne sont ni les flammes ni la chaleur qui ont fait flamber les constructions, mais des braises transportées par le vent. Celles-ci sont entrées en contact avec des matériaux inflammables situés sur des bâtiments ou très près d'eux. Il semble, selon les constats de ces chercheurs, que les meilleurs amis des incendies dans les zones urbaines, ce sont les paillis décoratifs dans les jardins ou encore les cordes de bois de chauffage qui sont appuyées contre les maisons. Selon Glenn McGillivray, directeur général de l'IPSC, une telle catastrophe n'est pas due au hasard ou à la fatalité, mais à des lacunes dans la prévention. Le programme FireSmart, créé par les autorités de l'Alberta dans les années 90, comprend des mesures destinées aux propriétaires de maisons et aux gestionnaires municipaux visant à limiter la propagation des incendies de forêt en ville. Mais ce programme est peu appliqué, écrit l'hebdomadaire L'Actualité dans cet article de fond. Les villes les plus proactives ont pris l'habitude de nettoyer la forêt en zone périurbaine afin d'éviter l'accumulation de débris de bois, mais elles ont fait peu d'efforts pour sensibiliser les résidents aux moyens qu'ils doivent prendre pour limiter les risques, explique-t-il. À Fort McMurray, même dans les quartiers les plus touchés, les maisons dont les propriétaires avaient suivi les recommandations de FireSmart ont beaucoup mieux résisté aux brasiers. Alors, cet article se poursuit sur de longs paragraphes. On mentionne notamment qu'il est important de réviser le code du bâtiment pour prévenir que de nouvelles catastrophes de ce genre se produisent. Il faut mieux reconstruire et il faut savoir répondre aux premiers signaux d'incendie. Ce ne sont là que quelques-uns des éléments qui sont soulevés dans ce papier. C'est vraiment un article de fond que publie ici L'Actualité. Ça s'intitule « Les leçons de Fort McMurray ». On poursuit cette revue de presse nationale avec un portrait de Michael Chong. C'est l'un des prétendants au poste de chef du Parti conservateur à la succession de Stephen Harper. Donc, c'est un portrait qui paraît dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Actualité. C'est sous la plume d'Alec Castonguay. Michael Chong, l'autre électron libre de la course conservatrice. En cette fin de course, le candidat cherche à se positionner entre ce qu'il appelle les candidats du statu quo qui ne vont rien apporter de neuf et les candidats de l'extrême qui risquent de faire imploser le parti. Chaque fois que le député conservateur Michael Chong monte dans sa voiture et quitte sa ferme, quelques kilomètres à l'extérieur de la petite ville de Fergus, en Ontario, il croise l'intersection où sa mère a perdu la vie, puis son père. Ses parents sont morts dans deux accidents de voiture distincts à 20 ans d'intervalle sur le même coin de rue, non loin du rang familial où il a grandi et où il vit maintenant avec sa femme et ses trois enfants. Le même inspecteur de police s'était occupé des deux scènes d'accident. On peut comprendre le candidat dans la course à la direction du Parti conservateur d'avoir tendance à croire au destin, poursuit le journaliste Alex Castonguay dans ce portrait du candidat. Dans cette course, même si les chances de l'emporter sont minces, Michael Chong dit faire confiance à sa bonne étoile. Il y a un chemin vers la victoire, confie-t-il au journaliste. Il est étroit et difficile, mais c'est possible. Il n'a donc pas l'intention de se retirer avant le résultat du vote le 27 mai prochain. Michael Chung mise sur les jeunes et sur l'aile progressiste du Parti conservateur pour rester dans la course le plus longtemps possible et, qui sait, accumuler suffisamment de votes au deuxième, troisième et quatrième tour pour se faufiler entre les deux meneurs, Maxime Bernier et Andrew Scheer. Chung, c'est l'autre électron libre du marathon conservateur qui dure depuis un an. À l'image de Maxime Bernier, il ressort clairement du lot des 13 candidats encore en lice. Il parle français, il est un fils d'immigrant, il est le seul à vivre sur une ferme, même s'il projette une image quelque peu urbaine. Il propose une taxe sur le carbone et un plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada. Il souhaite également diminuer les pouvoirs des chefs de parti à la Chambre des communes à Ottawa et spécialement les pouvoirs du premier ministre pour en redonner davantage aux députés et aux militants. Tout ça dans l'ancien parti de Stephen Harper. De quoi brasser la cabane, écrit le journaliste Alec Castonguay. Au point où bien des libéraux chuchotent actuellement que Michael Chung serait plus difficile à affronter en campagne électorale que les favoris actuels de la course à la chefferie conservatrice. Ses origines et son positionnement moins tranché à droite en font un candidat plus facile à vendre à l'électorat que les autres candidats conservateurs, avait confié un organisateur libéral aux journalistes il y a quelques semaines. Le français, qu'il parle très bien, est la troisième langue de Michael Chung. Malgré son apparence asiatique, le néerlandais est sa première langue et l'anglais est sa deuxième langue. « Quand je suis arrivé en maternelle, dit-il, ma prof a été surprise de m'entendre. » Son français, il l'a appris en suivant des cours à temps partiel parce qu'il voulait maîtriser les deux langues officielles du pays. Sa femme parle aussi français et il a inscrit ses trois enfants en immersion française à Fergus, un village au nord de Guelph. Donc ce portrait se poursuit. Si vous voulez approfondir et connaître davantage Michael Chung, c'est dans le journal hebdomadaire L'Actualité. Michael Chung, l'autre électron libre de la course conservatrice. Dans le journal Le Devoir à présent, Hélène Buzetti, la correspondante du journal à Ottawa, écrit un article sur le financement politique. Le Parti libéral du Canada fait du financement politique au grand jour. C'était en quelque sorte le début d'une nouvelle ère pour le Parti libéral du Canada jeudi soir à Montréal, écrit Hélène Buzetti. Du moins, c'est ainsi que la formation le présente. Son chef, le premier ministre Justin Trudeau, a participé à son premier cocktail de financement soumis aux nouvelles normes de divulgation que le parti s'impose volontairement. Le PLC met maintenant ses adversaires au défi de faire de même. Le premier ministre prenait part à un cocktail de financement au Musée des Beaux-Arts de Montréal auquel participaient une centaine de personnes. Dans l'assistance, on ne trouvait pas beaucoup de visages connus. L'homme d'affaires Stephen Brumfman a été aperçu dans la foule. Le prix d'entrée était de 250 $ par personne, 85 $ pour les étudiants, 65 $ pour les donateurs réguliers. Fait rare, les journalistes étaient invités à assister à l'événement. La liste des participants aurait même été passée au peigne fin pour détecter les lobbyistes. Moins de 5 lobbyistes auraient été décelés selon le porte-parole du parti, Braden Kelly. Il n'aurait pas été admis à la soirée, mais il a été impossible de contre-vérifier cette affirmation, le nom des lobbyistes n'ayant pas été révélé. Le Parti libéral du Canada s'est retrouvé dans l'embarras l'automne dernier, rappelle la journaliste, lorsqu'il a été révélé que Justin Trudeau et certains de ses ministres avaient participé à des activités de financement tenues dans des lieux privés, sur invitation seulement. Le premier ministre avait assisté à la résidence torontoise d'un homme d'affaires chinois à un événement réunissant 32 convives ayant payé chacun 1 500 $. Le ministre des Finances, Bill Morneau, avait notamment assisté à un cocktail dans une résidence d'Halifax pour lequel 15 personnes du monde des affaires avaient payé 1 500 $ chacun. Donc voilà l'article d'Hélène Buzetti dans Le Devoir. Le PLC fait du financement politique au grand jour. On poursuit cette revue de presse nationale en allant dans le fil de la presse canadienne. Des parents exhortent le Sénat canadien à adopter le projet de loi sur les transgenres. Les parents d'un enfant transgenre supplient les sénateurs d'adopter le projet de loi du gouvernement fédéral sur l'identité de genre et l'expression de genre, laissant entendre qu'il peut s'agir d'une question de vie ou de mort. Melissa Shetgan, mère d'une fille transgenre âgée de 9 ans, a affirmé que les parents qui appuient le projet de loi se battent pour la vie et l'avenir de leur progéniture. Elle a témoigné des difficultés vécues par sa famille et sa fille Warner, qui a été victime d'une agression. Elle a aussi parlé des risques associés à son témoignage public. « Vous devez savoir », a-t-elle déclaré, « qu'en agissant de la sorte, je nous mets, ma famille et moi, en grand danger. Après être sortis sur la place publique, nous avons été bombardés de lettres et de courriels qui nous traitaient de malades et qui disaient que nous devrions être fusillés et brûlés. » Selon la mère de cet enfant, plusieurs familles vivant constamment avec cette peur préfèrent demeurer dans l'ombre. Certains sénateurs, dont le conservateur Don Platt, ont exprimé des réticences sur le projet de loi, notamment sur l'idée que les personnes transgenres forment un groupe identifiable pouvant être protégé par la loi canadienne sur les droits de la personne. La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a dit que le gouvernement suivait les discussions et les débats en cours au Sénat. La ministre a rappelé qu'il est important de combler le vide juridique existant dans le Code criminel et la loi canadienne sur les droits de la personne. Ici se conclut cette revue de presse nationale pour le 5 mai. L'émission Le Débrief vous revient dans quelques secondes avec votre nouvelle francophone du jour. À tout de suite. Pour succéder aux revues de presse internationales et nationales, nous vous présentons à présent la rubrique Francophonie pour le 5 mai. Service en français à l'Île-du-Prince-Édouard, deux organismes veulent se parler davantage. C'est un texte signé par François-Pierre Dufault dans le portail de Radio-Canada. Deux organismes francophones de l'Île-du-Prince-Édouard s'engagent à se rencontrer plus souvent afin de faire avancer leurs dossiers communs, en particulier la mise en œuvre de la loi sur les services en français du gouvernement provincial. La société Saint-Thomas d'Aquin, la SSTA, l'organisme porte-parole de la francophonie insulaire, et le comité consultatif de la communauté acadienne et francophone, le CCCAF, qui conseille le premier ministre Wade McLaughlin sur les enjeux francophones, ont décidé tous les deux de se rencontrer à l'avenir au moins deux fois par année. Compte tenu du rôle crucial que joue le CCCAF dans l'implantation de la loi sur les services en français dans l'appareil gouvernemental, nous considérons que des rencontres régulières entre nos organismes sont très importantes pour faire avancer ce dossier prioritaire pour notre communauté, a expliqué à Radio-Canada Guy Labonté, président de la SSTA, dans un communiqué. La SSTA fait aussi partie, avec la CCCAF et d'autres intervenants communautaires et gouvernementaux, d'un nouveau groupe de travail élargi mis sur pied par le Premier ministre pour discuter, entre autres, des désignations possibles de services publics en vertu de la loi provinciale sur les services en français. La nouvelle présidente du CCCAF, Jacinthe Lemire, voit les rencontres régulières avec la SSTA comme une occasion pour son comité de se rapprocher des décideurs communautaires. Nous pourrons recueillir les préoccupations, défis et succès de la communauté quant aux services gouvernementaux en français, ainsi qu'une mise à jour pour les administrateurs de la SSTA sur les activités de notre comité, a-t-elle déclaré à Radio-Canada. La semaine dernière, le premier ministre Wade McLaughlin avait promis de désigner davantage de services publics en vertu de la loi sur les services en français de la province d'ici la fin de l'année. Il s'agirait des premières désignations depuis 2013. Le premier ministre, qui est également ministre responsable des affaires acadiennes et francophones, a dit vouloir enchâsser dans la loi la protection du musée acadien à Miscouche, la ligne InfoSanté 811 et les services provinciaux offerts dans les centres de la petite enfance de langue française. Au début de l'année, Wade McLaughlin avait promis un plan d'action afin de protéger davantage les services gouvernementaux offerts en français. Il a réuni un groupe de travail élargi pour la première fois à la fin mars pour discuter des désignations possibles en vertu de la loi provinciale sur les services en français. Donc cette nouvelle intitulée « Service en français à l'Île-du-Prince-Édouard, deux organismes veulent se parler davantage » paraît dans le portail de Radio-Canada. C'est un texte de François-Pierre Dufault. C'était votre nouvelle francophone du jour pour le 5 mai dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. Vous écoutez CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Merci d'être à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. On accueille en studio Till Phelps-Bondaroff avec nous. Bonjour Till.
Bonjour.
Est-ce que, avant qu'on commence à parler politique provinciale, tu peux te présenter à nos auditeurs?
Oui, alors bonjour. Je travaille ici maintenant en Victoria avec la campagne de Bryce Cassavant. Il est le candidat pour le NPD en Oak Bay Gordon Head. Et aussi, quand je fais pas ça, je travaille comme enseignante pour le débat à des différentes écoles, toutes partout. Et aussi comme consultant pour la stratégie et la recherche pour les organisations de l'environnement.
Formidable. Et on mentionne à nos auditeurs également que tu possèdes un doctorat de Cambridge en études internationales.
C'est ça.
Formidable. Donc, tu es un observateur de la chose politique et tu vas pouvoir nous renseigner aujourd'hui sur cette campagne 2017 en Colombie-Britannique. On va commencer par une première question générale. De quoi a-t-il été question depuis le début de cette campagne? Quels ont été les grands dossiers évoqués durant la campagne?
Mais selon moi, il y a trois choses. La question plus grande, c'est la question de la vie plus abordable. Nous avons une province très riche,
oui,
mais ça devient plus fort pour vivre comme les gens. Les gens ne peuvent pas vivre dans les maisons, chez où étaient les petits-enfants. C'est très difficile, les choses sont plus chères pour les gens.
Le coût de la vie est très élevé.
Oui, c'est ça. Et encore, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et les personnes cherchent une économie durable. Et finalement, personne ne veut des meilleurs services. On a des longues arrêtes ou des longues durations pour atteindre le service médical.
Mm-hmm.
Nous avons des écoles qui étaient coupées par 16 ans d'un gouvernement qui ne gêne pas l'éducation. Et nous avons des crises d'abri créées par un gouvernement qui l'a ignoré. Alors, les
crise
gens vraiment veulent des changements.
Oui.
C'est ça.
Mais la première ministre dit toujours que l'économie se porte très bien, que la Colombie-Britannique est en tête, chef de file pour l'économie parmi les provinces canadiennes.
Mais ça, c'est un gouvernement qui dit qu'ils ont des budgets équilibrés, mais ils sont équilibrés sur les dos des plus vulnérables. Alors, nous avons des questions comme MSP, on parlait de ça en avant.
Les frais médicaux.
Les frais médicaux, oui, c'est ça. Et c'est une taxe sur les gens qui également affecter les personnes qui font 30 000 $ par année et les personnes qui font 150 000 $ par année. Nous sommes la seule province qui a un frais comme
c'est le
ça.
Même prix, quel que soit notre revenu en Colombie-Britannique.
C'est une taxe régressive. Et c'est juste un exemple de nous pouvons avoir une province qui a beaucoup d'argent, mais les personnes qui sont plus vulnérables ne voient pas ça.
D'accord. Donc, l'immobilier, les frais de santé, les services sociaux qui sont coupés, ça c'est des enjeux qui sont vraiment chers aux citoyens, à la classe moyenne.
Il y a une autre chose aussi,
oui.
Et spécifiquement Oak Bay Gordon Head, parce que je travaille sur la campagne,
oui,
de Bryce Cassavant. Là-bas, j'entends beaucoup de personnes qui veulent parler de la réforme électorale. Quoi qu'il soit la réforme d'arrêter les donations corporées,
oui,
des syndicats, soit la question du le système de vote.
Oui,
selon
oui,
moi, ça, c'est une question structurelle. Maintenant, nous avons un système, first past the post,
oui,
et c'est un système qui ne partage pas le pouvoir également.
Oui.
Alors, je suis très fier que l'NPD provincial a promis un référendum à 50% plus 1 pour changer le système électoral à un système de, proportionnel.
Proportionnel.
Et selon moi, ça va changer le discours dans la politique parce que maintenant, c'est une des fois une compétition de qui peut crier plus fortement. Et selon moi, on veut un système de dialogue et de dialogue constructif. Et ça va être créé par un système proportionnel.
Alors, on peut se croiser les doigts parce, ouais, qu'on a vu de nombreux gouvernements arriver au pouvoir et oublier leur promesse de réformer le scrutin.
Il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment pas contentes avec le mensonge de Justin Trudeau.
Oui.
Et je suis très fier d'être avec un parti qui va vraiment introduire cela.
OK, formidable. Et donc, l'autre aspect aussi que vous avez soulevé, l'autre facette que vous avez soulevé, c'est le financement politique illimité qui est en place ici en Colombie-Britannique et qui permet à de richissimes industriels de donner des sommes illimitées à des candidats ou à des partis. Et même que ces dons peuvent provenir de l'étranger, d'autres pays,
ouais,
comme la Chine, par exemple.
Oui, c'est vrai. Et nous avons un parti libéral, Christy Clark, qui reçoit des grandes donations corporées. Et puis, après ça, il y a des compagnies qui leur donnent l'argent, qui reçoivent des contrats, qui sont des bénéfices. C'est un grand problème. Et c'est un gouvernement qui n'a rien fait avec ça. Ils ont dit, oh, on va publier toutes les donations, les noms des personnes qui nous avons publié les noms. Ça, c'est un peu faible, selon moi. On a vraiment besoin des lois. Nous avons les lois à la niveau fédéral. Nous avons des lois dans tous les autres pays de la côte ouest développés. Et c'est un système, donc, le New York Times, je pense, a dit que c'est le Wild West.
Oui.
Et c'est vrai. Et le gouvernement libéral n'a rien fait comme ça. Et nous voulons arrêter cela.
D'accord. Donc, vous proposez des mesures concrètes pour mettre fin, justement, aux dons illimités qui sont versés à des partis.
Oui, notre candidat, Gary Holman, qui travaille dans le Saanich North Islands, était notre critique de réforme électorale. Oui. Il a travaillé très fort pour proposer beaucoup de pièces de législation et a déjà présenté les pièces de législation pour les réformes électorales presque 6 fois dans le législateur. Alors, c'était complètement ignoré par le gouvernement libéral.
Qui est majoritaire.
Et qui reçoit plus de donations.
Oui, voilà.
Ouais.
D'accord. Alors, on a appris récemment dans les journaux, notamment par le Globe and Mail, que le Parti libéral devait rembourser des dons qui avaient été perçus illégalement. Et je crois que maintenant, la somme totale des dons remboursés par le parti est de 250 000 $. Alors, c'est vraiment un dossier chaud ici en Colombie-Britannique. On a vu des événements de financement où on monnayait l'accès à la première ministre. Donc, on peut acheter 10 minutes avec un rendez-vous de 10 minutes avec la première ministre.
Oui, moi, je n'ai pas 10 000 piastres pour avoir un lunch avec Christy. Et peut-être qu'elle devrait me payer. Oui, c'est un système bizarre.
Oui.
Et un système inégal. Et ça crée, c'est encore une question structurelle qui change la façon dont nous faisons les politiques.
Oui.
Et de cette façon, change le type de politique et les directions des policiers dans la France.
Oui, parce que là, on entre dans un système clientéliste qu'on appelle en anglais crony capitalism, tout simplement. Ouais. Et j'ai même entendu dire que Mme Clark recevait une commission, un pourcentage, lorsque l'événement s'était bien passé. Donc, lorsqu'on avait dépassé l'objectif, Mme Clark recevait un boni. Alors ça, c'est ahurissant, c'est renversant qu'un premier ministre puisse s'enrichir comme ça en moyennant l'accès à son gouvernement et en vendant les services du gouvernement quelque part.
Je pourrais pas mieux dire. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est, je pense, il y a 5 jours jusqu'à l'élection. Et ça, c'est une bonne réponse pour convaincre les personnes que nous avons besoin de la change. Et, intéressantement, il y a beaucoup de gens qui votent très tôt en avance.
Oui.
Je pense que le niveau de la vote taux, c'était presque 12% dans quelques circonscriptions. Et je suis très fier de ça. Et je pense que c'est un exemple des gens qui veulent vraiment la change. Ils ne veulent pas attendre jusqu'à la 9 mai. Ils veulent voter en avance. Et c'est très important. Et dans notre circonscription de Oak Bay Gordon Head, nous avons de l'Université de Victoria. Mm-hmm. Il y avait un vote en avance le 13 avril. Alors, il y avait presque un mois en avance. Mais c'était une bonne opportunité de voir des étudiants voter. Et ouais, c'est juste bon pour avoir plus d'opportunités pour les personnes de leur participer dans le système politique.
Donc, quand le taux de participation par anticipation est élevé, ça laisse entrevoir un taux de participation le jour du vote qui sera lui aussi très élevé.
Oui, c'est intéressant aussi. Comme je dis, je travaille en Opey Gordon Head et ça, c'est la conscription qui a le niveau la plus haute de participation dans les élections.
D'accord.
Et c'est très intéressant de parler avec les gens sur la porte parce que en beaucoup de conscriptions, les personnes disent « Oh, j'ai pas décidé encore, il me reste encore décidé. » Mais en Oak Bay Gordon Head, les gens ont dit presque plus tôt le temps « J'ai pas encore fini de rechercher la question.
»
Et selon ce dis-moi là-bas, les gens sont vraiment engagés dans le système politique et ils ont déjà changé le parti qui était leur représentant de plus des autres conscriptions aussi. Alors, ça me suggère un changement.
Ils font leur recherche, ils font leur devoir. Ouais, autrement.
Les gens en Victoria aussi, toute l'île, sont vraiment engagés dans la politique.
Magnifique, c'est magnifique.
Bon à voir.
Autrement, donc on a mentionné quelques-unes des critiques qui étaient adressées à la première ministre. Est-ce que on peut citer d'autres critiques qui ont été adressées à la première ministre Christy Clark?
Ouais, j'ai une grande liste ici, mais c'est combien de temps votre émission? Parce que nous pouvons parler toute la journée.
Alors c'est un sujet important. Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui on va dépasser un petit peu le temps imparti.
Ouais, on parle un peu de le MSP, le paiement de service médical. Mais les autres exemples des façons dont Christy a vraiment haussé le coût de vie pour les gens comme nous.
Oui.
Un exemple, c'est les frais de ICBC. Ça a Voyons, c'est 42%.
Ça, c'est l'assurance automobile.
Ouais, c'est ça. Alors, on a eu une hausse des freins par 42%. On a les freins hydro qui sont très hauts encore. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et c'est un parti qui leur met égal de hausser les freins pour les gens, mais ils donnent les coupes de taxes à 2% les plus hauts.
Oui.
Alors, c'est des encore des exemples comme ça.
Oui. Alors, Christy, elle pense encore, elle croit encore à la théorie du ruissellement, le trickle-down economics. Elle, c'est une adepte de cette théorie fumeuse.
Bah, je parle pas pour elle. Je sais pas si elle est théorie derrière leur mouvement. Je pense que plutôt, c'est juste un faveur, un ami riche à l'autre.
Oui,
c'est
voilà.
Pas, je dirais pas qu'il y a une structure à leur
policy. D'accord. Il n'y a même pas de justification. C'est tout simplement des bonnes pratiques entre amis.
Ouais,
d'accord.
C'est ça.
Alors, BC Hydro, ICBC, les services, tous les guichets de l'État.
On n'a pas même encore commencé de parler avec de l'éducation. Comme les écouteurs vont.
Et là, c'est la Cour suprême qui a obligé le gouvernement à réinvestir.
En 15 minutes, ils ont décidé. Et maintenant, j'écoute j'écoute Christy dire des choses comme je veux travailler avec les professeurs et j'avais donné beaucoup d'argent à le système d'éducation, mais c'était seulement après la cour là.
Elle a affamé le système de l'éducation jusqu'à ce que la plus haute cour du pays la contraigne à réinvestir. Donc oui, il y a quand même des critiques légitimes contre le parti libéral actuellement. Faut pas se le cacher, c'est un régime qui est essoufflé, qui est un peu épuisé après 16 ans de pouvoir. Mais je voudrais qu'on passe quelques instants sur la crise immobilière.
Ouais.
Donc il y a un problème de logement en Colombie-Britannique, dans les centres urbains principalement, Vancouver et Victoria. Les gens ne peuvent plus payer leur loyer. Le prix des maisons est prohibitif. Le coût des loyers l'est tout autant. C'est drôle comme le sujet est devenu plus présent quand on s'est rendu compte que les médecins pouvaient plus vivre à Vancouver. Là, on a commencé à en parler dans les médias. C'est quand les gens de la classe moyenne supérieure ont tout à coup perdu la possibilité de vivre à Vancouver. Mais les problèmes sont criants depuis des années. Les logements, le prix des logements atteint des sommets. Donc ça, ce sont des critiques qui sont adressées également à Christy Clark. On est toujours en compagnie de Teal Phelps Bondaroff. Teal, on va poursuivre cette conversation. J'ai maintenant envie de te demander quelques grands points du parti de John Horgan, le parti néo-démocrate. Est-ce que tu peux me donner un petit peu un aperçu de la plateforme du NPD provincial?
Mais la crise immobilière est une grande crise créée par le Parti libéral parce qu'il était aveugle à des grands problèmes. Et de façon, il atteint beaucoup d'argent de ça. Parce que chaque fois qu'une maison change de main, il fait d'argent. Et ça a vraiment été une des raisons que le gouvernement peut faire l'argument qu'il a des budgets équilibrés. Mais l'NPD veut changer ça. Nous voulons créer plus d'abris abordables. Et nous avons un plan de...
Des logements abordables?
C'est les logements,
oui.
Et les logements locatifs, coopératifs, et aussi les uns qui peuvent être achetés par le propriétaire. Et le plan de 10 ans va créer 114 000 différents logements.
Mm-hmm.
Et c'est un plan qui ont besoin de faire maintenant.
Parce d'accord.
Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune place pour vivre. Le coût de vie dans Vancouver est complètement fou.
C'est complètement dingue. Ça dépasse toute commune mesure. Est-ce que le gouvernement, est-ce que le Parti néo-démocrate était d'accord avec la taxe de 15% imposée aux acheteurs étrangers, une taxe qui est entrée en vigueur en août dernier?
Le NPD veut que c'est seulement payé par les taxes sont seulement payées par les gens qui ne payent pas les taxes en Canada. Alors, c'est pas une question de l'origine de la personne, c'est une question de où ils payent leurs taxes. Et selon moi, ça, c'est une bonne idée.
Donc, vous allez maintenir cette taxe-là si le NPD est élu. Vous allez changer un petit peu pour que ce soit seulement les gens qui ne payent pas leurs taxes au Canada qui soient touchés par cette taxe-là.
Oui, vous avez entré dans une section de la plateforme dont je ne suis pas complètement familière, mais... Je sais que nous voulons des taxes sur les personnes qui ne payent pas leur taxes ici en Canada. Mais je ne sais pas exactement les numéros.
Il y a aussi des mesures, par exemple, qui taxent les logements inoccupés, les logements vides. Est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prêt à mettre en place?
Ben, encore, je n'ai pas la réponse à cette question, mais je dirais que les gens à la plateforme Comme j'ai dit, j'ai travaillé dans Oak Bay Gordon Head. Maintenant, je suis dans le bout bleu de la campagne. Et on n'a pas reçu cette question. J'ai pas reçu la question. Ça me rapporte. Mais c'est une bonne question.
Et c'est quoi les autres grands points de la plateforme néo-démocrate?
Ben, comme j'ai dit, la plus grande chose, c'est de rendre la vie plus abordable. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Nous avons, par exemple...
J'étais à Save on Food hier. J'ai vu une salade à 11 $.
Mon Dieu, qu'est-ce qui était dans la salade?
Une salade à 11 $. Peut-être de la poudre d'or.
Ouais, peut-être, on sait jamais.
Des petits diamants.
Mais 11 $, c'est encore pas très cher. Si vous voulez manger la salade avec Premier Christy Clark, ça vaut 10 000 piastres là-bas. 11 $, c'est pas mal en fin de la journée.
Ouais.
Mais par exemple, 11 $ par une salade, ça sera ce que nous voulons faire pour la garde des enfants. Nous voulons un programme de 10 $ à jour pour la garde des enfants. Oui. Et ça, selon moi, c'est un programme excellent, vu déjà en Québec. Et c'est une façon de donner l'opportunité à les gens de travailler.
Oui.
Et comme maintenant, par exemple, ma soeur.
J'ai une famille.
Ouais, elle a 3 enfants en moins de 5 ans. Ça, c'est en Alberta, mais les coûts sont la même chose.
Mm-hmm.
C'est presque 100 ou 1300 $ par mois par enfant. Et c'était pas. Elle avait l'opportunité d'aller travailler, mais c'est beaucoup d'argent à faire le travail pour donner, placer les enfants dans la garde des enfants. Alors, comme ça, c'est un programme qui paye pour soi-même. Parce que les personnes qui entrent le travail, ils paient les taxes et ça paye pour le programme. Alors, ça, c'est un bon exemple. Comme moi, j'ai pas des enfants, mais je peux voir les bénéfices de la programme. Même chose avec la politique de changer le salaire minimum par heure à 15 $.
Oui.
Ah, ça, c'est un exemple. Moi, je n'atteins pas cet argent. Maintenant, je ne travaille pas pour beaucoup d'argent, mais je peux voir que ça aide des différents gens. Et quand les autres gens sont aidés, ça m'aide.
Oui.
Ah, un exemple, c'est les investissements dans le programme de santé. Comme nous avons l'opportunité d'aider les gens avec des crises. Nous avons des oiseaux ici. C'est un moment authentique de Victoria.
Exactement.
Mais par exemple, nous pouvons avoir des investissements dans les services mentaux pour les gens et de santé mentale. Et quand quelqu'un est en crise, il veut l'aide maintenant. Et le programme d'NPD, c'est de donner l'aide à la personne quand ils en ont besoin.
Oui.
Ils n'ont pas besoin de demander plus de temps. C'est on demande une fois et reçoit l'aide. Et les personnes qui ne sont pas en crise ou n'ont pas des problèmes d'addiction ou des problèmes mentaux peuvent aussi comprendre que quand nous aide les personnes à le moment de crise, on n'a pas besoin d'avoir tous les autres coûts de policiers, de santé qui arrivent dans le futur. Alors, on aide des gens maintenant et c'est tout le monde.
Oui, quand on adopte une vision globale et qu'on regarde l'effet que produit une politique sociale, on voit que cette politique est bénéfique à l'ensemble de la société et provoque une espèce de prospérité par effet de conséquence. J'aimerais savoir quelles sont les positions du NPD dans le dossier de la crise des surdoses aux opioïdes.
Ça, c'est une bonne question. Je suis très fier de travailler avec Bryce Cassavant. Il travaille déjà depuis longtemps comme un agent de conservation. Il a beaucoup d'expérience dans la protection de la loi. Et quelqu'un l'a demandé la question, et si vous me permettre, je vais répondre de la même façon qu'il a dit. Et c'était, nous avons un gouvernement qui a vraiment été encore aveugle à la crise. On parle avec notre candidat libéral dans l'un des débats, et elle a dit que la raison dont le gouvernement Christy Clark n'a pas actionné le problème de fentanyl, c'était parce qu'il attend la réponse du gouvernement fédéral. Elle attend, et le gouvernement fédéral était trop lent. Selon moi, si vous avez un ami qui est un peu ivre à une fête, ils vous ont appelé ses parents pour les donner, pour les conduire à la maison, et les parents ne sont pas là, vous l'appelez un taxi, vous ne laissez pas conduire sa voiture propre. Alors, nous avons un gouvernement qui a vraiment voulu que le gouvernement fédéral adresse le problème et ignorait complètement. Un exemple, c'est les pill press. Le parti d'NPD voulait arrêter la distribution des pill press. C'est une façon de fabriquer des pilules. C'est une façon de fabriquer des pilules chez les personnes.
Chez les dealers.
Oui, c'est ça.
Okay.
Et on voulait une pièce de législation à la maison, à le législateur ici, pour arrêter les presses de pilules. Et le gouvernement libéral n'a rien fait, n'a pas supporté. Alors, ça, c'est un exemple d'un gouvernement qui a vraiment rien fait pour la crise. Et maintenant, il dit, on va faire cela, on veut investir dans les programmes de santé. Mais c'est trop tard. Selon moi, c'est une question J'ai vraiment pas la confiance dans le gouvernement libéral pour faire des changements, ce qu'on a besoin dans la province de Colombie-Britannique.
Et oui, c'est parce qu'on on va dépasser le record de 914 décès en 2016. Si on annualise mois après mois le nombre de décès constatés depuis le début de l'année 2017, on se dirige vers un nouveau record de décès dans la crise des opioïdes. Donc c'est manifestement, le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires pour lutter contre cette situation de crise.
Et un autre exemple de la politique de NPD, c'est nous allons créer un ministre de santé mentale. Alors, une personne, c'est leur boulot de chaque journée dire qu'est-ce qui est l'état des services mentaux dans le pays, dans la province. Et ça, selon moi, c'est une bonne étape de vraiment adresser des problèmes comme l'addiction, des problèmes mentaux qui sont souvent liés à des problèmes d'addiction.
Je voudrais pas ouvrir une trop longue parenthèse, mais je crois qu'en Colombie-Britannique, nous sommes la seule province à interdire à des gens de sortir de l'aile psychiatrique d'un hôpital sans l'accord du psychiatre. C'est-à-dire que le psychiatre peut prolonger la détention d'une personne indéfiniment sans leur accord. Je referme la parenthèse.
Mais nous sommes la seule province aussi qui n'a pas un plan de réduire la pauvreté. C'est juste un exemple, quelques autres exemples. Nous sommes un pays, une province où la première ministre voulait investir dans le LNG, mais a ignoré les problèmes comme créer un plan compréhensif de réduire la pauvreté. Alors, on a une grande disparité de croissance, de valeur, et encore, j'ai pas de confiance en le gouvernement libéral de vraiment faire des bonnes décisions pour les gens qu'on a vu.
Voilà, parce que Christy Clark dit que l'économie se porte bien, mais les gens ont de la difficulté à payer leur compte d'hydro, ils ont de la difficulté à payer l'épicerie, l'autobus, les transports, etc. J'ai une autre question, cette fois dans le dossier environnemental, Thiel, est-ce que tu peux m'indiquer quelles seront les politiques d'un gouvernement néo-démocrate dans le dossier des pipelines? Kinder Morgan, bien sûr.
Oui, nous sommes contre le programme, l'oléoduc Kinder Morgan. Et selon moi, c'est un exemple encore de les libéraux, si vous me permettre. Oui. Nous avons des programmes et des projets irresponsables qui sont fabriqués par, qui sont proposés et acceptés sans la régulation propre. Alors, tous les programmes, comme le Site Dam, encore, c'est un exemple de des décisions qui ont été faites sans la oversight d'une organisation,
supervision
d'une organisation comme la Commission de l'énergie. On a un gouvernement encore qui veut des petits projets comme LNG.
Est-ce que vous allez annuler le CITC si vous êtes au pouvoir?
La position de NPD, c'est qu'on va donner le pouvoir à la commission régulatoire de l'énergie pour regarder le projet. Parce qu'on ne sait jamais. Personne ne regarde le projet. Selon moi, quand nous regardons le projet, c'est un projet horrible qu'on devrait annuler. Mais on ne sait pas. On a besoin de regarder la commission indépendante et pas seulement les décisions de la dernière porte libérale.
OK, super. Et tandis qu'on est dans les sujets environnementaux, est-ce qu'on peut dire quelques mots à propos du Parti vert de Colombie-Britannique? Donc, le Parti vert de M. Weaver, est-ce que le chef du Parti vert a réussi à faire une percée au cours de la campagne électorale?
Oui, nous travaillons Bryce Cassman, le candidat dans Oak Bay Gordon Head, qui est le candidat contre M. Weaver, ou les deux attendent pour le même siège.
Oui.
Selon moi, d'une analyse politique, je pense que M. Weaver essaie vraiment fort pour accroître les nombres de sièges pour le Parti vert. Et de ce moment, on ne la voit pas souvent dans notre conscription à cause du fait qu'il travaille fort pour atteindre plus de sièges pour son parti. Je pense que les gens d'Oak Bay Gordon Head voient ça et pensent « Ah, nous avons le choix entre un bon député qui va nous représenter et un député qui va essayer de vraiment regarder pour les intérêts de son parti. » Voilà, ça c'est la vérité.
La NPD, on a dit que M. Weaver avait eu un bon débat télévisé. Il s'était bien débrouillé, il avait de l'énergie, il avait des répliques, de la répartie. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ben, c'est très facile de M. Weaver à dire ce qu'il veut parce qu'il n'a aucune chance de former le gouvernement. Alors, il peut promettre des choses, il peut promettre des milliards de dollars d'investissement de n'importe où, les unicornes, les petits des chiens dans chaque maison. À la fin de la journée, c'est impossible de, pour qu'il puisse les introduire. Alors, ça leur donne un avantage dans les débats. Il peut dire ce qu'il veut, il n'a pas besoin d'avoir un plan complètement balancé, équilibré. Alors, à la fin de la journée, il a besoin de beaucoup de sièges pour former le gouvernement. Nous avons besoin de 9. Et le seul choix, c'est de vraiment voter NPD pour remplacer Christy Clark. Et comme j'ai commencé, on a commencé à parler avec la question de la réforme électorale. Ça serait la meilleure chose pour la Parti Verte. C'est un système électoral réformé avec le système proportionnel.
Oui.
Et ça arrive seulement avec un gouvernement NPD, avec John Horgan et le référendum dont j'ai parlé. Alors, selon moi, il y a aussi une autre chose qui était enlevée dans les débats avec Mr. Weaver et puis après dans les entrevues aujourd'hui. Et c'était la question de quel parti est-ce qu'il supportera dans une situation peut-être minoritaire.
Oui.
Il a vraiment intimé que c'était le Parti libéral. Alors, en
Même dans les dossiers comme les pipelines, même dans les dossiers comme le site C?
Ben, je ne peux pas parler sur ça, mais Mr. Weaver a déjà voté pour deux des budgets de Christy Clark, qui a coupé l'éducation. Il a fait un robocall pour Mr. Campbell. Il avait, ouais, c'est une ancienne histoire, mais il a fait ça aussi. Et maintenant, comme il l'a dit, il va supporter les libéraux dans une situation minoritaire, où il intimait ça. C'est pas vraiment exprès, mais à la fin de la journée, c'est difficile pour nous en Oncle-Gordon parce que nous avons deux candidats libéraux de façon. Et intéressantement, les Verts sont en des campagnes très fortes contre les nouveaux démocratiques. Si t'es vraiment convaincu qu'on peut arrêter Christy Clark, il aurait aussi des campagnes très fortes contre les libéraux, mais c'est pas la vérité. Alors, en façon,
ils choisissent de diriger leur critique vers John Horgan et le Parti néo-démocrate plutôt que d'attaquer Christy Clark.
C'est ça. Parce qu'il sait qu'il peut gagner peut-être quelques votes ici et là, mais à la fin de la journée, ça aide Christy Clark. Parce que ça l'aide à rester en pouvoir, parce que de façon de...
Ici Léo.
Vous écoutez CILS FM 107.9 à Victoria.
Info Éducom national et international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Carla Coltrow, ministre des Sports et des Personnes handicapées, doit faire une annonce aujourd'hui au sujet des Jeux d'hiver du Canada de 2019. L'annonce est prévue à Red Deer, en Alberta. Elle sera accompagnée de Tara Veer, mairesse de Red Deer, et de Lynn Radford, présidente du Comité des Jeux d'hiver du Canada 2019. Un point de presse suivra l'annonce. Rapport du groupe de consultation sur les activités politiques et des organismes de bienfaisance, Diane Leboutillier, ministre du Revenu national, a déclaré que le rapport représente un jalon important du processus de consultation qui a débuté l'année dernière. Le groupe recommande notamment d'apporter des changements à la loi de l'impôt sur le revenu. Elle a remercié le groupe de ses efforts